Bonsoir, bienvenue pour ce barbecue foot du lundi qui est définitivement le meilleur jour de la semaine, comme le dit si bien une autre chaîne YouTube, mais pour une grosse balle orange, Trash Talk pour ne pas les nommer. Si vous ne les connaissez pas, foncez si vous vous intéressez à la NBA. Des super podcasts tous les lundis midi au moins. Et donc, on ne fera pas comme eux. Je ne demanderai pas à mes acolytes ce qu'ils ont mangé ce soir. Parce que moi, je ne sais pas si ça intéresse forcément les gens. Quoique, il pourrait y avoir des petites idées recettes de mes acolytes. Moi, ça ne sera pas terrible, hein. Je suis le Carlos Soler de la cuisine, hein. Donc, ça vole pas très très haut. Et pour m'accompagner, justement, Carlos Misère. Ça va, mon Carlos? Toi, je
Bah,
sens que tu es un bon cuisinier.
oui, ça va. Bonjour, bonsoir, bon appétit si vous préparez à manger. Alors, moi, ce soir, c'était juste taboulé. Comme j'ai fini tard, et je me suis, voilà, j'avais ma petite assiette préparée par ma douce et tendre qui savait que voilà, donc j'avais taboulé un petit peu de crudité. Hein. J'essaie de garder la ligne pour Radio Magazine Co. Et voilà. Et important, si vous préparez à manger, prenez 2 minutes, 5 étoiles, le petit commentaire qui va bien sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube, parce qu'il faut propager la bonne parole merguez.
Ah, la bonne, je sais pas, mais la parole, en
Si,
tout cas,
si. Nos
oui.
paroles sont forcément bonnes. On a l'expérience, tu vois, et encore plus avec la personne qui va venir derrière moi. Je veux dire, on a 160 ans d'expérience à tous les trois, donc, enfin, surtout 100 ans pour la troisième personne. Donc,
Ça y est, ça commence.
c'est possible. Si on n'y est pas, on s'en approche. Vous avez entendu d'ailleurs le nom de sa douce voix, parce que oui, les fantômes peuvent aussi parler. Ça va, mon Clément?
Moyen, moyen, moyen. C'est lundi, c'est pas ravioli. Enfin bon, on va pas refaire l'histoire, mais bon. Ouais, non, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai eu un week-end non footballistique. À part, alors j'ai eu deux, si, j'ai eu deux moments d'émotion assez importants. C'est quand Liverpool a marqué à la 97e minute. Darwin Núñez, hein, Núñez qui rime avec Merguez, parce que notre ami Christophe Dubarry doutait de ses capacités. Et voilà. Donc, ça
On en doute
relance.
toujours. Hein.
Pardon? Oui, non,
On en
non,
doute
mais
toujours.
voilà. Bon, oui, mais tant que Jürgen est là, je pense que voilà, Liverpool restera stable. Et puis ben oui, non, parce que les Rennais, ben voilà, c'est des fantômes sur le terrain. Et ben on n'en parlera pas beaucoup, je pense, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon, à part si on parle maintien avec Lorient, mais voilà. Donc moi j'ai pas suivi grand chose. Sérieusement, j'avais vraiment beaucoup de choses à faire à côté. Voilà, mais je viens parce que j'ai un contrat moral. Et voilà, non pas financier, hein, parce que les gens pensent qu'on gagne des millions en faisant ces podcasts. Nous ne sommes pas
Des
nous ne sommes pas
dizaines de
notre homonyme.
millions, c'est
On va
ça?
dire. Voilà, nous ne sommes pas notre homonyme. Nous sommes RMC, mais nous sommes Radio Merguez & Co. Nous ne sommes pas les autres, hein, ceux
Il est
qui
faux.
disent n'importe quoi aussi,
Oui,
parce que nous disons
exactement.
n'importe quoi, mais eux le disent et ils sont payés. Nous non,
Et en
voilà, on
plus, ils
est
sont premier degré. Nous, on sait que c'est des conneries. C'est surtout ça.
Voilà, nous on le dit, on dit, bah attendez, je vais dire une bêtise, mais voilà, je vais la dire quand même, mais voilà, mais on n'est pas payé pour ça.
D'ailleurs, nous n'avons pas l'outrecuidance de sortir des livres en plus
En plus,
pour en
ça pourrait
rajouter une
arriver,
couche.
ça peut arriver.
Oui, on se mettra
C'est
sur
vrai
ChatGPT et hop, on fera le livre. Ça vaudra autant que
Voilà.
les autres
Non mais si je
qui
sors un
sortent en
livre, moi
même temps.
ça n'aura rien à voir avec le football, mais bon, voilà.
Ah, pourquoi pas? On aura chacun
Oui.
notre chapitre. Ça pourrait être digne des almanachs d'il y a 100 ou 200 ans.
Voilà,
L'almanach des
exactement.
grosses têtes.
C'est ça.
L'almanach de
Oh
la
là là.
merguez.
Aïe, on a perdu notre faible auditoire qui avait moins de 45 ans. Hein. Allez, c'est parti. Donc, le programme, ça sera bien sûr le débrief de la J24 de Ligue 1. Hein, on se rapproche quand même, on a déjà passé une belle partie.
Et d'ailleurs, il reste 10 journées, hein, parce si, que, attention, il n'y a que 34 journées.
C'est ça.
On n'est plus à nos 38.
Il ne reste que 30 points à prendre.
Oui. Donc,
voilà. D'ailleurs, on en profite pour passer le petit bonjour au JCRM, qui est toujours qui est toujours présent sur le chat, avec des avis avisés. C'est ce qui est pas mal pour un avis. Allez, on est parti. Donc, ce débrief de la J24. Et bien sûr, à chaque fois qu'on arrivera sur un Européen qui joue cette semaine, aussi bien un match retour qu'un match aller, on s'arrêtera sur la preview de ce club pour l'Europe, avec peut-être des destins un peu contrastés selon les équipes. Du mieux pour certains, un peu moins bien pour d'autres, et d'autres, c'est forcément 8e de finale retour, donc t'es pas forcément serein. c'est la base. Allez, on est parti. D'ailleurs, les principaux résultats, on a eu que deux matchs nuls, celui de Monaco contre Paris, qui était finalement quand même un bon match de foot, même si il n'y a pas eu de but. La faute à deux gardiens qui avaient sorti le costume ce soir-là. L'autre match nul, c'est Strasbourg à Montpellier, de partout. Là aussi, un petit match intéressant de Ligue 1 lors du multiplex. Sinon, pas mal de victoires à l'extérieur. On en compte pas moins de 5, avec la première, la victoire de Lille à Reims, qui rebondit et qui prépare bien justement son match de Coupe d'Europe contre le Rapide. Rapide de Vienne.
Non,
Stuttgart.
Non, Stuttgart.
Voilà.
Calmons-nous.
Marseille qui en met une belle à Clermont, 5 buts à 1.
Mais qui n'en a pas mis une belle à Clermont?
Paris, par exemple, on a fait 0-0 là-bas.
Oui, mais c'était une autre époque.
Ouais, c'était début de saison. Quoique, là, je suis, avec les matchs qu'on fait en ce moment, je ne suis pas forcément persuadé qu'on mette beaucoup de buts. Metz, qui fait la bonne opération parmi les mailles classées, en compagnie de Lorient d'ailleurs. Donc, Metz qui va gagner à Nantes 2-0. Donc, c'est dans la course pour le maintien, c'est toujours très intéressant. Lorient qui gagne 2-1. Au Roazhon Park, donc là c'est vraiment la contre-performance en haut du classement, enfin tout du moins pour les équipes qui aspirent au haut du classement, et Lyon qui s'est pris une belle volée par Lens, 3-0.
Ah, là, mais alors finalement, alors on en reparlera, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire avec les Lyonnais? Donc, mais je sais pas, moi je pensais qu'ils allaient devenir champions à la fin de la saison, mais non, alors on nous aurait menti alors.
Non, c'est
parce que de France, devenir européen, se maintenir en première division.
Non, c'est un point commun avec les clubs qui ont Olympique dans leur nom. C'est que généralement, tu gagnes 3 matchs d'affilée et t'aspires à être champion de France. Mais bon, généralement, il y a...
L'histoire de l'ours, de la bête, de je sais pas quoi, de la peau qu'on a vendue, qu'on avait acheté, je sais pas quoi. Ouais. Non, mais c'est bon, quoi, les gars. À un moment, il faut jouer au foot, quoi.
On reviendra sur ce match. Et seulement 2 victoires... Oui,
moi, je suis là juste pour... je suis énervé, moi, donc...
Quand je suis et comme donc ça, seulement 2 victoires à domicile, Toulouse, qui d'après l'équipe régale, on n'a pas forcément la même notion de la régalade, hein, va falloir toucher 2 mots à l'équipe, hein, mais en tout cas Toulouse qui réussit à gagner 2-1 à Nice après avoir concédé l'ouverture du score, et on sait que c'est jamais forcément évident contre les Niçois, et Brest qui fait le travail contre le Havre et qui maintient sa belle place de deuxième. D'ailleurs, ce qui me permet d'enchaîner sur le classement de notre bonne vieille Ligue 1. Donc, petit à petit, Brest grappille son retard sur Paris qui reste premier. Brest deuxième à 9 points derrière, à 46 points. Monaco qui prend un point et qui remonte, qui se maintient sur le podium. Lille qui revient à la quatrième place à 41 points. Nice qui continue sa dégringolade à 40 points cinquième. Lens qui recolle justement à ce groupe d'Européens à 39. Marseille 36. Pareil, qui se rapproche doucement mais sûrement des places européennes. Y a-t-il un effet Gasset? On va en discuter tout à l'heure. La mauvaise opération, on en a parlé tout à l'heure. Rennes, qui stoppe justement sa belle série de victoires sans défaite, donc avec cette défaite à domicile qui reste à 35. Reims, 9e, 34 points. Le petit trou de 5 points pour trouver Toulouse à 29, suivi de Lyon, 11e, 28 points, Strasbourg, 12e, 26 points, deux équipes à 25 points, Lorient et Nantes. Et oui, vous avez bien entendu, Lorient est sorti de la zone rouge, comme quoi tout est possible dans la vie. Donc, égalité avec Nantes, qui a perdu. Le Havre qui a perdu aussi, qui glisse à la 15e place, 24e, à un point du barragiste Montpellier. Donc Montpellier qui paye justement son inconstance d'une journée à l'autre et qui là flirte avec la relégation et ferme la marche. Metz et Clermont. Donc Metz 20 points, Clermont 17e. En tout cas, c'est toujours intéressant. Au moins pour les Messins d'avoir gagné ce match qui leur permet de rester un peu en vie. Mais bon, il commence à y avoir quand même quelques écarts qui se créent, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il reste 10 journées, 30 points à prendre. Et finalement, j'avais plus en tête, et je crois que ça parlait d'à peu près 35 points pour être sauvé. Est-ce qu'il en faudra pas un petit peu plus ? Avec justement cette Ligue 1 où tout le monde peut battre tout le monde. Mon Carlos, tu veux commencer par quel match pour débriefer ?
On va percer la psy tout de suite, on va parler de Paris quand même.
Allez, c'est parti. tu veux m'énerver tout de suite ? Non,
bah après, mais après, tu vois, en fait, moi, je ne suis pas forcément inquiet par rapport à Paris et par rapport au match de Monaco parce que. On sait très bien que, enfin, l'alarmisme de nos journaleux français qui disent c'est la catastrophe, Paris a fait le match nul à Monaco. En fait, c'est surtout en fait le comportement d'un joueur et qu'on va parler juste après. Mais en résumé, le match a été pas forcément très bon en première mi-temps, parce que Kylian Mbappé a pas été extraordinaire et que, mais tu le dis très bien depuis le début de saison. Il n'apporte pas une vraie assise défensive et c'est pas le premier défenseur de son équipe. Et tu t'aperçois qu'en fait, quand il n'est pas dedans, l'équipe n'est pas dedans. Il a été sorti à la mi-temps. Alors, Monaco a fortement faibli physiquement en deuxième mi-temps et j'ai trouvé quand même Paris beaucoup plus en jambes en deuxième mi-temps. Pour moi, Paris aurait dû plus gagner le match que Monaco. Ils ont quand même eu des occasions en deuxième mi-temps. C'est quand même beaucoup mieux joué. Mais d'un point de vue jeu, moi je suis pas forcément inquiet pour Paris. Après, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est le fait que Danilo soit sorti blessé.
Mukiele en défense centrale. Il n'a pas joué, surtout.
Non, c'est il n'est pas sorti blessé, mais il n'a pas pu jouer justement. C'est Mukiele qui a pris sa place. Et c'est vrai que Mukiele, alors ça lui fait du bien parce que ça lui redonne un peu de temps de jeu et que. Ça va quand même nous remettre dans le rythme avant le huitième de finale si on a besoin de lui. Mais et savoir s'il va jouer en défense centrale ou si c'est Marquinhos qui va quand même pouvoir tenir sa place. Mais en fait, l'objectif de Paris, c'est mardi, hein, très clairement, le match retour à la Real Sociedad. Et c'est là où on va voir si la rotation, la gestion de groupe de Luis Enrique est la bonne ou pas, quoi. Avant de s'emporter et dire un peu tout et n'importe quoi.
C'est clair que oui, ça, tu sens qu'il y a de la gestion depuis quelques...
Que je trouve en plus intelligente. Hein. J'ai pas forcément été béni oui-oui d'Enrique de l'entraîneur de Paris en début de saison. Vous vous souvenez de ce que j'ai pu dire quand il avait fait son match à Newcastle et tout. Là, je trouve qu'en fait, il s'est vraiment fixé sur son 4-3-3 qui est quand même plutôt quelque part un peu basique, mais qui est quand même finalement très bien équilibré, et qu'il a quand même fait une rotation au niveau des joueurs pour pas non plus les griller sur cette partie de saison. Et que bah, bon, après, Skriniar, bah, il peut rien, quoi. Le mec, il est en vert, il est en vert. Après, c'est plus sûr que Pan qui est à remettre en cause. Mais sur sa rotation, même quelqu'un comme Lucas Hernandez, qui a été quand même préservé, et je trouve plutôt bien préservé jusqu'à ce moment de saison-là.
Sachant qu'il aussi, par exemple, des joueurs qui, hein, sont fragiles.
Ouais. Et tu vois, Mendes, c'est pareil. Moi, je le trouve plutôt intéressant à gauche quand il revient, parce qu'en fait, je le trouve moins offensif. C'est pas forcément un extraordinaire défenseur, mais du coup, je le trouve plus sérieux. Et je pense que c'est aussi le fait qu'il revienne et qu'il n'ose pas non plus aller au bout de son physique. Mais du coup, ça équilibre aussi Paris. Et ça, je trouve ça intéressant. Voilà. J'ai fini mon tutoriel.
Non, mais tu as dit les termes, comme on dit chez les plus jeunes. Non, bah après, sur l'ensemble du match, ça m'a fait un peu penser à, bah, justement au match aller contre la Real, ou même le match contre Rennes, c'est-à-dire un pari pas forcément convaincant en première mi-temps. Tu sens que si tu lui mets un peu la pression, ça a du mal. Un grand Donnarumma te garde dans le match. D'ailleurs, petit aparté, si Donnarumma n'a pas le trophée UNFP du meilleur gardien en fin de saison, c'est qu'il y a un délit de sale gueule. Hein, à un moment, faut appeler un chat un chat.
Mais il s'est quand même métamorphosé. Moi, je trouve que depuis le début de saison, je trouve quand même. Moi, je trouve qu'il a. Il a maturé psychologiquement et que peut-être il y a une sorte de gestion qu'il arrive mieux à faire. Et,
Ah, mais il est déjà meilleur dans son jeu au pied. Donc, d'un seul coup, les petites bévues qu'il pouvait faire, c'était souvent ça. Après, un ballon repoussé d'une frappe où tu repousses dans les pieds d'un adversaire, je pense que t'en as une au minimum par journée. Mandanda, par exemple, c'est ce qu'il fait sur le premier but lorientais. Voilà, on va dire qu'aujourd'hui, les gardiens ne captent plus les ballons, ils repoussent. Si tu es un attaquant, que tu es assez prompt, tu réussis à les mettre, ce genre de but. Paris en a mis quelques-uns. Colomani, Ramos en ont mis quelques-uns comme ça cette saison. Voilà. Ça... Donc après... Sur cette première mi-temps, voilà, tu te fais largement bouger. À la mi-temps, Monaco a plus de 2 XG, donc ça prouve quand même que le père Donnarumma il a quand même fait un sacré chantier, plus aussi les défenseurs autour, parce que même quand lui faisait le premier arrêt, derrière, ça suivait bien pour mettre un pied ou une jambe et contrer les monégasques. Et après, comme quasiment toutes les équipes qui affrontent Paris, à peu près à l'heure de jeu, ça s'écroule totalement physiquement en face. Si vous regardez le match, l'attitude de Golovin à la 60e, 70e minute, le mec, il n'en peut plus. Il n'avance plus. D'ailleurs, de toute façon, Golovin n'est quand même pas forcément un grand athlète et un grand coureur à pied. Mais, et donc, ça correspond à peu près à ce moment-là où Paris met finalement. Est-ce que tu es préparé physiquement, que tu es au top, tu réussis à retrouver
Paris continue d'imprimer son rythme.
Voilà, tu continues à imprimer son rythme qui n'est pas forcément énorme, justement en première mi-temps, c'est ce qu'on peut reprocher. Oui. Et je pense que c'est aussi ce qui est reproché à Kylian Mbappé, et c'est aussi pour ça qu'il sort à la mi-temps. C'est que, bon, outre le fait que Kylian, depuis quand même quelques mois maintenant, se regarde jouer. Donc, il joue pour lui, fait Kylian, des frappes arrêtées, des frappes qui n'ont.
Kylian me déçoit beaucoup parce que moi, je trouvais quand même qu'il avait un début de carrière qui était super intéressant. Et moi, j'étais quand même plutôt derrière lui parce que je trouvais qu'il avait. Une vision, une gestion de sa carrière qui était qui était bien. Enfin, je veux dire, c'était prometteur. Et là, ce qu'il est en train de faire sur cette dernière année à Paris, il est en train de tout gâcher. Alors, par contre, et je le dis tout de suite, les trous de fiac qui disent que qui mettent tout sur Kylian Mbappé, allez bien vous faire cuire le cul. Parce que j'en ai parlé avec, j'ai travaillé ce week-end et j'ai réussi à en parler un peu avec des gens. L'image du vendredi un peu a tourné et tout le monde disait ah mais vous rendez compte vous... Alors oui, il n'a pas à faire ce qu'il a fait sur sa sortie de la mi-temps. Il n'a pas allé voir sa mère. C'est quelqu'un du par. Enfin, moi j'ai été sportif alors à un niveau amateur très bas, mais même si tu sors à la mi-temps, tu restes avec tes coéquipiers, tu peux aller toucher. Tu t'habilles, mais tu retournes, on va dire, au niveau du staff, tu retournes au niveau des remplaçants.
Apparemment, il aurait eu quand même l'autorisation de, d'une part, alors, de quelqu'un du club. De toute façon, tu vois, Nasser était en tribune, tu avais des gens du club, alors même si c'est des
tout est regardé,
conseillers tout est... de Nasser autour de lui, ou la plupart, quand tu écoutes les vidéos de Romain Molina, tu dire qu'en fait, faut juste savoir parler arabe et tu peux devenir conseiller de Nasser Al-Khelaifi. Tu as juste à le flatter pour être dans sa cour. Parce qu'on parle quand même d'un mec qui était loueur de voiture et l'autre vendeur de chaussures. Hein, donc, ça prouve le haut degré sur ces gens. Mais donc, voilà. Bon, après,
juste pour finir, le truc, c'est que il n'a pas à faire ce qu'il a fait. Même s'il avait l'autorisation, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue image, il aurait été quand même mieux qu'il aille vers ses coéquipiers qui soutiennent, on va dire, son équipe. Maintenant, quand j'entends dire oui, mais regardez, de toute façon, il va partir gratuit et tout, tout ce qui a été en amont de ça, et j'en parlais justement le samedi matin, et effectivement, c'est ce dont tu parles, la vidéo de Romain Molina qui est sortie dimanche sur le phénomène Mbappé, il y a quand même une grosse responsabilité aussi de Paris, c'est-à-dire que c'est pas que Mbappé, tu vois. Quand on dit, par exemple, Mbappé part gratuit à Paris, de Paris pour aller au Real, mais personne n'a demandé à Paris de mettre 180 millions d'euros. Quand j'entends certains supporters dire « Ah ben oui, mais vous avez vu ce qu'on a mis sur Mbappé », mais personne n'a demandé au PSG. Enfin, PSG aurait pu attendre un peu à Monaco et dire « Ben nous, on va aussi le prendre gratuit ». Sauf que peut-être ça n'aurait pas pu se faire, parce que les gens l'auraient fait avant.
Je suis forcément convaincu qu'il serait resté à Monaco.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la théorie de l'absurde, Arnaud. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la valeur d'un joueur n'est que son transfert véritable. C'est-à-dire que tu peux investir 180 millions d'euros sur un joueur. Il se pète le genou sur un match ou ailleurs. C'est pareil. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment... Le football maintenant est un produit capitalistique. Les clubs sont devenus des entreprises capitalistiques.
C'est un investissement.
Tu fais un investissement et tu n'as pas à devoir attendre quelque chose du joueur. Le joueur devient un travailleur, alors un travailleur particulier, mais c'est un travailleur comme un autre. Il n'a pas à appartenir à Paris. Ce n'est pas parce que Paris l'a pris aussi cher que ça et lui a donné des salaires. Kylian Mbappé n'a jamais mis une arme sur le bureau de Nasser en disant maintenant tu me signes un contrat à temps. Tout ce qui a été signé a été un commun accord entre les deux parties. Ça a fait monter la gonfle de Mbappé, je l'admets totalement. Mais en même temps, Paris…
Il y a même plus que ça.
Paris a participé aussi à ça, c'est-à-dire que c'est un système à deux.
C'est le nom de la vidéo de Molina, c'est-à-dire est-ce que Paris a engendré un monstre.
Mais comme Messi avec Barcelone.
Exactement.
Et peut-être… Peut-être que on se rend pas compte, mais peut-être que c'est un bien qu'il parte à Madrid, parce que s'il serait resté, ça aurait pu devenir un vrai Messi et ça aurait pu financièrement être un vrai handicap au niveau du club du PSG.
Ah bah complètement. Voilà. Déjà actuellement, c'est-à-dire qu'entre le salaire et toutes les primes. On parle d'une centaine de millions d'euros par an pour Mbappé. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est? C'est-à-dire, c'est le budget de trois petits clubs de Ligue 1.
Bon, en même temps, aux États-Unis, tu regardes qu'au baseball, ils arrivent à signer des contrats de 700 millions de dollars sur 10 ans. Bon, le football reste quand même un peu un sport de pauvres.
Ouais, là, après c'est aussi les contrats télé qui font ça. Nous,
on suit
le basket, les contrats des superstars américaines, les contrats max se sont envolés parce que la NBA a aussi signé des contrats de diffusion de plusieurs milliards. Donc,
et sincèrement, regardez pas le contrat de Shohei Ohtani avec les Dodgers de Los Angeles, où les mecs se sont engagés à le payer pratiquement pendant 6 ans en retraite à 68 millions de dollars. C'est véridique. Et c'est aller regarder le contrat.
Mais après, comme tu disais pour Mbappé, c'est-à-dire que personne n'oblige les patrons des franchises aux États-Unis ou dans n'importe quel club sauf si tu veux les garder, mais on sait pourquoi c'était le cas. C'est-à-dire que l'émir a eu ce qu'il voulait. Il a eu sa finale de sa Coupe du Monde où les deux capitaines, enfin tout du moins, Loris était encore capitaine, mais les deux superstars de chaque équipe jouaient dans son équipe, jouaient au Paris Saint-Germain. Donc le Brésil s'est fait éliminer un peu trop tôt. Mais voilà, c'était ça. C'est que c'est aussi pour ça que Messi a signé à Paris. Donc oui, dire que le Paris Saint-Germain a créé cette situation, sauf qu'à un moment, comme tu le disais, sur son début de carrière, etc., Mbappé a enchanté les foules parce que justement, il s'exprime bien. Tu vois que c'est un garçon qui n'est pas bête, qui en a dans la tête. Et là, tu te dis, mais garçon, pourquoi as-tu fait ça vendredi? Même si tu as quelqu'un du club qui accepte que tu ailles faire ta tournée des Harlem Globetrotters, à faire des selfies à la mi-temps avec les gens, etc., à un moment, qu'est-ce que tu as dans la tête pour ne pas penser que ça va être discuté après? Et c'est surtout, moi derrière, c'est le traitement médiatique. C'est qu'à un moment, si c'est pas Mbappé, et ça se passe l'année dernière, et que la personne s'appelle Neymar, le traitement médiatique derrière ne serait absolument pas identique. Donc, à un moment, on s'en doutait un petit peu, mais le clan Mbappé a totalement verrouillé le milieu journalistique français. C'est qu'aujourd'hui, on ne veut pas se mettre la star à dos, parce que Mbappé, techniquement, avec l'équipe de France, avec Real Madrid probablement l'année prochaine, t'en as à peu près pour une dizaine d'années, et t'as pas envie de te couper avec ça. Donc là, il y a quand même quelque chose de très malaisant. Tu fais porter tout le chapeau à Luis Enrique, alors que Luis Enrique est juste un coach et qu'il agit en tant que tel. Parce que là, on est quand même en train de reprocher à un entraîneur de mettre un joueur mauvais, parce que Kylian Mbappé, depuis quelques matchs, est mauvais. Alors, on me dit, ouais, mais et les autres sur le terrain, quand ils ne sont pas bons, mais ils sortent aussi. Sauf que tu attends d'un mec qui a justement le brassard, parce qu'on n'en avait pas parlé, mais quand il a le brassard et qu'il se fait remplacer à la 60e, il se déplace pas pour aller donner le brassard à Danilo. Il le prend et il le jette. D'ailleurs, il ne tombe même pas sur le coéquipier, il jette à terre. Alors, on en fait beaucoup sur le capitana, et moi je trouve que c'est un peu surfait. Sauf que là, il y a un symbole. Et donc, tu vois, c'est typiquement ce genre de choses. Et si on accumule tout ce que monsieur fait depuis 2019, on est en 2024. Hein. Depuis la cérémonie des trophées UNFP 2019, où il réclame il veut des responsabilités, que ce soit ici ou ailleurs, ça a commencé en 2019. Ça fait donc quasiment 5 ans que le monsieur nous casse les pieds, et encore, je ne suis pas vulgaire, avec ce genre de choses. Ou quasiment tous les étés. Voilà. C'est...
Mais après,
alors après, au Real, D'ailleurs, et j'ai justement entendu ça dans un podcast et j'ai trouvé ça très de bon aloi. C'est qu'on parle souvent de Mbappé comme du meilleur joueur du monde. Suivant les week-ends, il est top 3. En ce moment, je ne sais même pas s'il est dans le top 50 monde, d'ailleurs. Mais à part le Real Madrid, un joueur qui techniquement est le meilleur du monde, qui est libre en fin de saison, normalement, tous les clubs doivent se battre pour l'avoir. Vous entendez du monde se battre pour Kylian Mbappé ?
Après, ça dépend. En fait, le problème, c'est que c'est, enfin, je pense qu'il y a le pragmatisme de certains clubs anglais qui disent que de toute façon, tout a été bouclé avec.
Tu t'en bats les mains ! Tu essayes ! Tu sais que ce mec-là, il marche à l'argent. T'es Manchester City, t'es United, t'es Arsenal, t'es Chelsea. T'es tous les grands clubs qui peuvent peut-être lui apporter un peu plus facilement une Coupe d'Europe qu'une Ligue des Champions que Paris Saint-Germain. Ça, faut être de mauvaise foi pour... T'en as aucun qui est capable d'aller mettre l'argent que va mettre le Real ? Peut-être qu'il y en a certains qui se disent on le prend lui, mais on prend toute la clique autour et il va nous mettre la merde dans notre club. Donc, je pense qu'au Real... Il fera comme à Paris, il se fera petit la première, deuxième saison. Attendez la saison 3 de Mbappé au Real.
Bah de toute façon, ça
quand ça va commencer à discuter pour des prolongations, ce genre de choses.
Mais ça va être un vrai palier pour lui. Et je pense que là, on pourra juger l'homme, enfin le joueur. Quoi.
Et j'espère que pour lui, justement, le cadre Real Madrid, avec les grands joueurs qui vont y être, avec les Jude Bellingham, avec les Vinicius, etc. J'espère que ces mecs vont juste lui prendre par l'oreille en lui disant « Toi, t'es personne. T'es peut-être le plus gros salaire du club, mais t'es personne, garçon, ici. » C'est-à-dire que là, t'es pas Kylian Mbappé, t'es un joueur du Real Madrid. Et j'espère que ça va se passer. Ça sera bien pour lui, et ça sera bien pour le Real, bien sûr, et ça sera bien pour l'équipe de France. Alors peut-être que ça lui mettra. Alors peut-être qu'il se défoulera en équipe de France et qu'il fera son joujou comme il faisait à Paris, ou les très mauvais matchs en équipe de France qu'on a pu voir, où il jouait pour sa tronche. Et peut-être que, tu vois, c'est dommage avec tout ce qui lui arrive qu'un Paul Pogba ne soit plus en équipe de France, parce que c'est typiquement le genre de mec. Il serait arrivé derrière Kylian, il lui aurait mis une petite taloche derrière la tête en lui disant garçon, tu vas te calmer deux secondes. Donc. C'est peut-être ça qui lui manque. D'ailleurs, a priori, d'après Molina, toujours dans sa vidéo, les gens qui lui disaient ces quatre vérités, bizarrement, ont disparu de son entourage. Et aujourd'hui, tu as la bonne vieille cour, comme tous les gens qui ont du pouvoir. Tu n'as que des bénis oui-oui avec des gens qui veulent entendre ce que tu entends. Bref, Clément, avec des allers-retours, avec ta connexion instable, as-tu quelque chose à dire sur notre Kylian national ou tu es tout figé ? Voilà, il est disparu, donc il était figé. Voilà, donc il ne dira rien. Sinon, mon Carlos, en preview de ce match de retour de Ligue des Champions.
Alors moi, comme je porte toujours la guigne, je vais dire 9-0 pour la Real Sociedad. Comme ça, au moins, on est sûr que Paris va passer. Non, mais normalement, Paris doit passer. Là-dessus, je vais arrêter. Voilà. Je les vois passer. Mais je ne veux pas porter la guigne. Donc, 9-0 pour la Real Sociedad. Vraiment, on est large.
Mais une équipe qui ne marque pas de but, parce que là, il faut quand même voir. Bon, après, la Real a fait jouer, son équipe B ce week-end. Ils ont encore perdu. Mais en tout cas, tous les gros matchs qu'il a fallu gagner, ils se sont fait éliminer en Coupe du Roi par Mallorca, je crois. Donc, un très grand club d'Espagne qui doit sûrement pratiquer le plus beau jeu de la Liga, hein, d'après les experts de la fosse RMC. Non, mais c'est l'équipe de. Ça reste une bonne équipe, la Real, une équipe très solide. Il faut juste que Paris mette un pion, parce que derrière, il faudrait qu'ils en mettent trois, ce que je ne les sens pas capables. Par contre, on sait comment fonctionne Paris. Donc, même si, avec les divers remontadas aujourd'hui et le groupe, et c'est vrai que quelqu'un le mettait sur Twitter, le groupe qui est à la Real, là, pour disputer le match, la moitié des joueurs n'étaient pas là la saison dernière. Donc, c'est un groupe qui a été profondément renouvelé. Sur les divers mauvaises expériences que tu peux avoir sur ces dernières années, sur les huitièmes, l'aller-retour contre Madrid, où tu surdomines trois mi-temps sur quatre et tu t'effondres à la fin, on ne parlera pas de la remontada, où aujourd'hui seul Marquinhos est le survivant. Je pense que c'est un tout. Et donc, tu ne sais jamais avec Paris si tu te prends le premier but. Si ça peut avoir un regain, ou alors si tu t'effondres. Mais en tout cas, la Real, pour moi, est une équipe très faible. C'est une bonne équipe, mais quand on parle de Ligue des Champions, pour moi, c'est très faible. Et en tout cas, si tu te fais sortir par cette équipe-là, c'est que définitivement, tu n'avais absolument rien à faire dans cette compétition. Et tu pourras préparer la saison prochaine sereinement avec Kylian sur le terrain ou pas en super sub, je ne sais pas. Mais j'attends avec la compo avec impatience parce que moi je disais ça un petit peu pour rigoler les semaines passées en disant que je pouvais sentir que Kylian commence sur le banc. Je ne pense pas non plus que ce sera le cas. On aura notre attaque Barcola, Mbappé et Dembélé devant. Je pense que ça sera ça. Le monsieur a quand même pas mal de choses à se faire pardonner. Il a des choses à montrer à l'Europe. Bah, mon garçon, c'est le soir. C'est ton
Mais après,
soir.
c'est jamais dégonflé, hein. Pour finir sur le sujet de Mbappé, moi, on peut approcher pas mal de choses. Il s'est jamais dégonflé dans les grands rendez-vous, donc j'espère que.
Oh, il a choke quelques fois, hein, mais pour moi, l'un des rares matchs où il n'a pas de choke, c'est le match aller au Bernabéu quand les stades étaient vides. D'ailleurs, remarquez que Paris performait quand les stades étaient vides. Hein. où tu gagnes 4-1 au Camp Nou, où c'est l'une des plus belles victoires européennes de Paris, où là, il fait un récital. Et quand tu vois l'équipe qui était alignée, c'était pas l'équipe B du Barça, hein. Mais tu vois, même sur le match retour, sans un grand Keylor Navas et un manque de réussite du côté Barça, le Barça peut tourner à la mi-temps à 3-1. Donc, alors que ce match-là, bah, tu fais un partout. Bon, après, tu auras le quart de finale contre. Mythique contre le Bayern où tu gagnes 3-2 là-bas et tu perds 2-1 à la maison. Ou avec le but à l'extérieur, tu repasses quand même. Bon, c'est pour moi, ça passe. Ça passe même avec une victoire où finalement tu trembleras pas trop sur le match. Mais voilà, il y a un moment, quand les clubs italiens, etc., étaient en huitième, ils n'étaient pas forcément au top niveau. Bah, les mecs, ils faisaient le boulot. Et voilà, j'ai juste envie de demander aux Parisiens de faire le travail contre une équipe qui est amplement à leur portée, qui est offensivement, bah, inoffensive, justement, qui a certes un bon collectif. Mais derrière, Paris a normalement trop d'individualité pour pouvoir faire la différence sur ce style de match, quoi. Bon, on a déjà beaucoup trop parlé. On va vite passer sur l'équipe en forme
Marseille,
depuis
depuis qu'ils font la
que
kinésithérapie,
Jean-Louis est revenu.
c'est quand même dingue.
Ouais, c'est une superbe victoire quand même. Alors, ça commence quand même assez mal, hein, où tu as Clermont qui ouvre le score et
Non, ils égalisent.
ils égalisent. Non,
Ah,
c'est Marseille qui ouvre le score. Ah, je
c'est
confonds
Marseille.
avec le match de Montpellier, pardon.
Mais ce qu'il y a, c'est que c'est toujours un peu un Marseille à réaction. Tu vois qu'ils sont quand même égalisés. Après, c'est vrai que ben, c'est Clermont. Moi, Clermont me déçoit quand même un peu. Je voyais quand même un peu plus constant et puis peut-être un peu plus résistant quand même au niveau de ce championnat. Je trouve ça assez incroyable que quand même Gasset qui fait de la calinothérapie arrive à remettre un peu cette équipe sur pied. Alors, c'est une mission un peu de court terme parce qu'il a dit que 70 qu'il est resté pour les 4 mois après il partait. Le problème, c'est que de toute façon, là, avec Grasset, ça va être le premier véritable rendez-vous, je pense, pour Marseille. Le fait de jouer contre Villarreal, en plus, face à Marcelinho. Je sais que je vais essayer de jeter un œil quand même. Je bosse, je vais finir tard le jeudi, mais je vais quand même essayer de jeter un coup d'œil quand même sur le Marseille-Villarreal, parce que je pense qu'il va valoir son pesant de cacahuètes. Et intrigué. Moi, je sais plus quoi penser de ces joueurs marseillais qui un jour veulent pas jouer. Dès que tu te caresses un peu dans le sens, tu peux se jouer un peu mieux. Est-ce que ça peut tenir jusqu'à la fin de saison? Comme le disait notre Clément National, il reste plus que 10 matchs. Donc, il peut créer un peu une sorte de à la vie, à la mort. Tu vois, tu finis championnat un peu comme ça. Et après, ben, les joueurs partiront. Ceux qui doivent partir partiront. Tu vois. Essayer. Ah, mais par contre, oui, être européen, mais je pense pas qu'ils pourront viser la Ligue des Champions parce que pour moi, Brest, que je voyais s'effondrer, tient toujours le coup. Lille, je les vois peut-être pas Monaco, mais le problème, c'est que Lille devant, moi, je les vois tenir le cap. En plus, Lille va jouer son 8e face au Sturm Graz, les Autrichiens. Et après, t'as Lens encore qui tiendra, donc ça va être difficile. Mais bon, à voir, hein, le championnat est tellement surprenant que voilà. Je sais pas.
Non, mais je souscris totalement. Alors après, j'ai plus forcément en tête le.
Après le calendrier
marseillais, mais.
Il y a Nantes, Rennes, Paris, Lille, Nice. Tu as quand même de sacrés déplacements. Ils ont encore Lens. Le problème aussi, tu vois, de championnat, c'est que tu te dis tu peux passer, tu peux faire 3 victoires. Mais si c'est 3 victoires face à des équipes qui sont un peu plus en bas de classement et en plus dans une spirale un peu plus négative, quelque part, c'est pas que ton classement peut être faussé, mais. Quelque part, si tu n'as pas encore passé les gros, voilà, à Marseille, c'est ce qui se passe. Ils vont se taper quasiment tout le haut du classement sur cette fin de saison. Donc voilà, quoi. Je pense que ça peut plus être l'accident industriel qu'autre chose. Après, à voir avec Jean-Luc Gasset, moi, je suis, voilà, on verra. Avec la Coupe d'Europe, ça peut partir sur une bonne dynamique, les mettre dedans et la victoire après la victoire, ça peut être un peu la surprise, mais j'y crois pas trop.
Ouais, ben c'est vrai que je voyais ça, hormis Nantes à domicile, ouais. Tu vas à Rennes, tu reçois Paris, tu vas à Lille et tu reçois Nice.
Et tu vas tu reçois Toulouse ou tu vas à Toulouse.
Toulouse.
Qui est pour l'instant en plus en forme, quoi, tu vois, qui n'aura peut-être plus rien à jouer.
Tu reçois Toulouse le 21 avril, c'est dans un mois et demi. Est-ce que Toulouse sera toujours sur cette...
Là, ça repart un peu, tu vois. Et puis, il va peut-être y avoir le stress de la deuxième division, tu vois, de la descente. Parce que le problème, c'est qu'à bout d'un moment, il y a des équipes qui se remettent à gagner dans un championnat complètement fou, où tu n'as même plus forcément de ventre mou. Tu ne sais pas pourquoi, mais il y a des équipes qui vont se mettre à perdre un peu comme ça. D'autres qui vont se remettre à gagner, Toulouse... Regarde Metz qui va taper le Nantes. Tu dis, tu voyais Metz un peu condamné. Ben, tu t'aperçois qu'ils sont juste à 3 points du barragiste. C'est un championnat que tu n'arrives même pas forcément à pronostiquer. Tu vois, tu arrives à lire, quoi.
Bah ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, c'est vrai que tu avais Clermont-Metz à 17 et 20 points, mais après, tu as Le Havre à 24. Et Toulouse est 10e à 29. Donc, ouais. Avec juste 5 points, t'as plein d'équipes, quoi. Même Metz, quoi, qui a gagné, s'ils enchaînent avec une ou deux victoires, bah, les mecs, ils sortent de la zone rouge, quoi. Donc,
Mais tu vois,
par contre, clairement, ça commence à sentir le camembert parce qu'ils sont quand même à 7 points du barragiste. Quoi.
Et quand tu vois le niveau de jeu, c'est pareil, c'est pas non plus. Mais c'est vrai que même Lyon, qui va quand même mieux, hein, tu te dis, ils sont que 11e à 28 points. Donc, quelque part, c'est pareil, il faut qu'ils fassent attention. Même si je trouve que, quand même, le fond de jeu de Lyon, c'est quand même.
C'est le jour et la nuit.
Après, il a quand même réinstallé quand même certains joueurs qui sont intéressants. Même si face au dernier match, face à Lens, tu sentais qu'ils étaient un peu cuits. Et que... C'est pareil, Lyon, en fait, ils vont peut-être assurer le maintien dans les prochains matchs. Et après, eux, leur objectif, c'est la demi-finale de Valenciennes, en plus au Groupama Stadium, et de passer et se fixer sur la finale de la Coupe de France. Pour espérer être européen. Vous imaginez Lyon européen et en Ligue 1 la saison prochaine?
Vous
avez dit ça au mois de novembre.
Non, mais il y a surtout, avec cette équipe-là, tu conserves ces joueurs. Il ne faut pas oublier que tu n'as quand même pas des joueurs en prêt, même si avec c'est avec option d'achat.
Oui, mais
tous ces joueurs-là, s'ils restent, tu mets quelques ajustements, notamment en défense centrale, tu fais venir un bon défenseur central. Moi, cette équipe-là, ça doit jouer le top 3 l'année prochaine.
Mais Arnaud, moi, j'aimerais bien quand même savoir, je sais que je vous embête et que je vous casse les pieds avec mes tintaines, mais j'aimerais bien savoir d'un point de vue financier où ils en sont, parce que c'est quand même, alors que la DNCG avait dit qu'en gros, ils n'avaient plus de pognon à sortir, machin et tout. Ils en ont quand même sorti un sacré paquet au niveau du mercato hivernal, alors qu'ils n'ont pas forcément fait des ventes extraordinaires. Et j'aimerais bien savoir, en fait, au mois de juin, ce qu'ils vont dire, quoi. Mais après, le problème est tellement caché par les clubs qu'il y a des fois, tu ne sais pas trop, tu vois, sachant que. Et c'est de l'investissement sur la ça qu'ils espèrent revendre plus cher.
Bon, après, je ne sais pas si tu es forcément dans une optique de trading avec
Textor. Textor, le problème, c'est qu'il y a des crédits à rembourser. Hein.
Ouais, mais tu valorises un peu plus un joueur si tu le montres en Europa League ou en Ligue des Champions que juste en Ligue 1 contre le Havre. Alors,
je suis d'accord avec toi, mais il faut voir en fait la date des créances. C'est toujours ça aussi. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas la main dessus.
Après, tu as OJCRM qui pose la bonne question, c'est quid aussi de Pierre Sage la saison prochaine? Parce que je pense il a signé entre guillemets un intérim. Je ne sais pas si tu n'es pas obligé de signer un an et demi. Avec une ECATF. Donc, normalement, il devrait être là. Et franchement, s'il fait le travail et que Lyon assure, pourquoi aller chercher un.
En plus, je trouve que ça a été quand même quelqu'un qui a osé casser un peu le mythe du joueur lyonnais quand tu vois en fait ce qui a été recruté et ce qu'il aligne. Parce que tu vois, il pourrait aligner Cherki à la place de Lyon.
Après, je ne pense pas que c'était Pierre Sage qui était aux commandes de la cellule de recrutement.
Oui, là, mais tu vois, par exemple,
ça ressemble à un mercato.
Oui, mais on pourrait mettre quelqu'un comme Tolisso, quelqu'un comme Lovren aussi, qui a un peu, on va dire, une sorte d'ADN OL, sauf qu'il ne l'aimait pas, en fait. Il a été aussi pragmatique au niveau du niveau de jeu et qu'il a cassé certaines choses. C'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est ça, par contre, ça. Effectivement, je demande à voir l'année prochaine. Je redemande à voir, savoir ce qu'ils peuvent faire comme mercato l'année prochaine. Et là, par contre, ça m'intéresse très bien.
C'est vrai qu'après, comme le dit OJCRM sur le chat, ça parlait déjà du coach qui était à Botafogo pour essayer de le rapatrier. Donc, est-ce que même si Pierre Sage fait le travail, est-ce qu'il ne va pas se retrouver dégagé comme un malpropre pour installer justement le coach de Botafogo, quoi. Donc, après, si tu fais ça, ce coach-là a les mains libres. Parce que tu vois, un Anto Lopez, à mon avis, il finit sur le banc pour mettre Perry à la place.
Ouais, si c'est coach... En même temps, il n'aurait pas tort, parce que... Enfin, je veux dire, Lopez... Perry, je l'ai vu, j'ai été au match de Coupe de France. Ça joue. Hein. Enfin,
c'est un sacré gabarit aussi. Hein.
Ah, ouais, non, non. C'est une belle bête. On n'a pas l'impression comme ça, mais.
Si. Ben, surtout à Lyon ou à part Matic, c'est quand même des bas du cul sans rallonge. Hein.
C'est ça.
Enfin, t'as aussi O'Brien qui est assez grand, mais quand t'as les Lacazette, les Tolisso, je pense qu'on doit faire à peu près la même taille. Hein. Ça doit faire 10m75 au garrot. Donc, t'as les Cacré, c'est pas très grand. Orban, je pense pas qu'il soit très grand non plus. Donc, t'as tout de suite quand même, quand il est entouré de joueurs lyonnais, il fait tout de suite grand.
Oui.
Donc voilà. On a parlé de Marseille, mais on n'a pas dit ce qu'on prévoyait pour eux contre Villarreal. Tu les vois sur la même lancée? C'est-à-dire pas peut-être encaisser des buts, mais en mettre plus que l'adversaire, ce qui est quand même le principe du foot. Mais
moi, déjà, je dirais peut-être un match nul. Je crois que c'est à Marseille, le premier match, c'est ça, non?
Ben, je ne sais plus, justement. Je n'ai pas forcément le calendrier devant moi.
Mais il me semble que c'est le match à bien Marseille. Parce que comme Villarreal est premier, ils avaient l'avantage, quelque part, du terrain ensuite. Enfin, ils avaient l'avantage du retour. Donc, écoute, moi, je dirais plutôt... déjà viser un match nul, hein, ça déjà pas mal. Et après, c'est vrai que dans l'optique, c'est quand tu accueilles, quand tu fais le match chez toi, vaut mieux le gagner. Mais bon, ils ont fait quand même un sacré. Villarreal a fait un sacré match en championnat. Ils ont gagné 4 ou 5-1, je crois. Donc à voir.
Ben, Marseille aussi. Non, mais c'est OJCRM qui nous dit très fort justement, tous les barragistes reçoivent à l'aller. Donc Marseille, ouais, c'est bien à Marseille le match aller.
Moi, je pense que déjà le match nul sera pas mal, mais effectivement, une victoire serait quand même une vraie option pour s'ils veulent jouer la qualification. Et puis s'ils veulent vraiment en plus la mettre à Marseille.
Ok, donc on va aller maintenant sur notre dernier représentant européen, c'est-à-dire Lille, donc qui a réussi ce bon petit match contre Reims. D'ailleurs, je crois que tu avais quelque chose à dire sur Will Steel.
Moi, le problème de Will Steel, en fait, c'est quelqu'un que j'appréciais quand même, entre guillemets, mais je trouve qu'en fait, ce qu'il a fait à Reims avec ses allers-retours pour Sunderland, ces trucs qui étaient quand même pas forcément très, très fins, je trouve que c'est quand même un. Alors là, je trouve que c'est un sacré manque de respect par rapport en fait au club et je trouve qu'en fait il s'est enterré tout seul parce que là j'ai l'impression qu'il a perdu son groupe, qu'il est plus forcément aussi influent que ça. Alors je sais bien que Reims c'est pas le Barça, hein, c'est pas, mais je trouve qu'il a perdu quelque chose un peu, que l'équipe est plus forcément aussi entraînante qu'avant. Et à force de tergiverser au niveau de ses contrats, de dire non mais moi je suis là mais sans être là, mais en étant là, ben au bout d'un moment ben voilà quoi, ça c'est pas possible quoi. Tu peux pas faire tout n'importe quoi au niveau de tes joueurs et donc voilà quoi.
Bah, c'est sûr que oui, tu sens que le message passe un petit peu moins. T'as pas l'impression d'avoir le Reims qui avait fortement embêté Paris et tu sens qu'il était reparti du Parc des Princes extrêmement frustré. En tout cas, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a du mal à cacher ses émotions. Hein. Tu sens que quand il n'est pas content. Bon, après, le souci pour lui, c'est qu'il a quand même un président qui ouvre un peu trop sa bouche dès lors que les décisions arbitrales ne vont pas dans son sens. Donc, c'est pas forcément évident non plus. Hein. Donc, Donc, Reims, qui est la hype Reims, est en train d'un petit peu se tasser. Hein. C'est vrai
je trouve que c'est dommage parce qu'en plus, c'est plus par rapport à la faute de.
Pour ils ne sont pas décrochés. Ils sont pas décrochés. Ils sont toujours là. Si tu sens que, comme toutes les équipes de Ligue 1, si ça s'enchaîne, s'il y a 2-3 victoires d'affilée, ça peut quand même se remettre dans le sens du vent. Mais c'est vrai que tu as quand même devant des équipes qui performent quand même si on a parlé de Monaco contre Paris, qui a fait, moi, pour moi, un de ses meilleurs matchs défensivement parlant. Si Monaco était aussi prompt à défendre, bah déjà contre Lens, ils avaient fait un beau match en allant gagner 3-2 dans l'Artois. S'ils faisaient tous leurs matchs comme ça, ils embêteraient un petit peu plus Paris et ils ne seraient pas à 13 points. Lille, JCRM le dit bien dans le chat, c'est que leur saison est assez illisible. Mais comme quasiment toutes les équipes de Ligue 1, c'est irrégulier.
Jonathan Davis qui fait quand même, au départ, qui arrive à planter des buts, qui en plante un justement face à Reims, mais qui manque l'immanquable en même temps, alors que j'avais marqué un petit message plein de à notre Eden Blizzard national. J'avais fait remarquer que quand même encore Jonathan Davis avait marqué sur le match face à Reims, et il m'a montré les images de sa cacade. J'espère que normalement ils doivent gagner face à eux. Alors eux, ils vont jouer à Graz. Normalement, ils doivent quand même à l'extérieur gagner le match aller, se mettre un peu à l'abri et pouvoir se qualifier aisément.
Comme nous l'avait dit Clément, hein, c'est Sturm Graz, c'est le meilleur club autrichien juste après Salzbourg. Mais bon, voilà, ça reste top 2, top 3 de la Bundesliga autrichienne. Voilà, quand tu as dit ça, tu as tout dit. Normalement, un Lille en forme qui fait le travail, ça doit se débarrasser de Sturm Graz. C'est comme on l'avait dit sur les émissions précédentes. Je crois que à part, tu dois avoir Aston Villa et la Fiorentina. Pour moi, c'est les deux seuls adversaires que Lille peut craindre. Sinon, tout le reste, ça doit passer. Si tu as un bon tirage, normalement, Lille, c'est demi-finaliste obligatoire. Conférence League. De toute façon, c'est l'objectif, normalement, de tout club français qui fait la Conférence League. Bon, après, l'année prochaine, avec le nouveau format, ça sera peut-être un petit peu différent. Quoique, ça sera peut-être plus simple.
Je sais pas.
Donc, d'ailleurs, l'UEFA a tweeté aujourd'hui justement sur le nouveau format. Les gens se sont enflammés alors que c'est sur le site de l'UEFA depuis octobre. Les explications.
Et l'excellent site Lucarne Opposée que j'avais déjà cité avait fait aussi tout un schéma explicatif sur la Ligue des la Ligue des Champions. Bon, mon petit Arnaud.
Mais c'est très simple.
Ouais. Mon petit Arnaud. On va passer au chipo merguez.
Ouais, vas-y.
Alors, ma chipo, parce que c'est une chipo, c'est un match de 4e division d'Angleterre. Le match, c'est Wimbledon, Milton Keynes. Pourquoi est-ce qu'il faut voir l'exaltation des supporters? En une minute, très vite, Wimbledon est un club anglais qui a quand même une certaine histoire, qui a remporté les cups. Et un jour, le club se fait racheter, les propriétaires se disent, en fait, il y a trop de clubs à Londres, on va délocaliser le club et on va aller le mettre à Milton Keynes. Tout le monde en Angleterre se fout de leur gueule en disant, non, enfin, vous ne pensez pas. Et l'AFA valide le projet. Imaginez le stade de Rennes, en fait. Des propriétaires disent on va racheter le stade de Rennes, mais comme il y a trop de clubs en Bretagne, on va le délocaliser à La Rochelle. Et que la fédération dise bingo bongo, on déménage le stade de Rennes à La Rochelle. Ils prennent tous les trophées, ils prennent toute l'histoire de club et ils déménagent tout. Et les supporters.
C'est une franchise au final, quoi.
C'est ça, voilà. Parce que Milton Keynes est une ville nouvelle en fait en Angleterre, qui n'avait pas forcément de grand club sportif. Donc, ils ont acheté leur club sportif. Et en fait, les supporters de Wimbledon ont été tellement désarçonnés que la saison suivante, en fait, ils ont monté l'AFC Wimbledon. Et ils ont réinscrit le club, un club de supporters dans le championnat. Les anciens joueurs sont venus participer. Le club a connu 5 montées successives, enfin pas montées successives, mais 5 montées en 10 ans, qui était quand même. Ils sont partis au plus bas de l'échelle anglaise pour aller au plus haut niveau, pour l'instant, qui était la 3e division.
Et ça, en fait, c'est une secte de Football Manager, ton truc.
Ah, mais c'est un truc à voir. Et en fait, Milton Keynes, en fait, a même repris le surnom de Wimbledon, qui était The Dons. Quand vous jouez à Football Manager, vous voyez Milton Keynes, The Dons. En fait, initialement, c'est Wimbledon. Et donc, le club est monté jusqu'en 3e division. L'année dernière, ben, ils sont descendus. Et en 4e division, il y avait le club de Milton Keynes. Et ben voilà, samedi il y a eu le match. Alors c'est pas un derby, hein, mais c'est vraiment le match dans toute sa détestation. Il n'y avait pas de supporters adverses. Ils ont fait une darmana, c'est-à-dire qu'ils ont pas voulu de supporters de Milton Keynes dans le stade. Et Wimbledon a gagné le match à la 95e minute. Et l'exaltation, c'est voilà. À savoir que quand même, quand les clubs se sont réaffrontés la première fois, c'était en FA Cup. Et c'était à Milton Keynes. Les mecs de Wimbledon sont arrivés avec des masques à gaz à Milton Keynes pour dire qu'en gros ça sentait trop la merde là-bas et qu'ils voulaient pas respirer leur air.
Les Anglais dans toute leur finesse.
C'est ça. Mais voilà. Mais donc voilà cette petite histoire et allez la voir. C'est sur Twitter, c'est partout et.
Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est un peu une des merguez. Vous connaissez quand même mon attachement entre guillemets au groupe de supporters et parfois à leur desiderata pour moi qui date d'un autre temps, enfin ça parle de folklore mais ça s'attache à des choses qui sont assez puériles pour moi, mais par contre le truc du c'était le match de Nice justement. C'était Toulouse, Toulouse-Nice. Vu qu'a priori les COP ne s'apprécient pas trop, c'était classé à risque. Et donc, tu avais interdiction de te balader à Toulouse si tu revendiquais le fait d'être supporter niçois. Est-ce qu'on se rencontre ? Et ça, c'est banalisé. Parce qu'on avait dit aussi qu'à Nantes, je crois qu'il était interdit de se balader avec un maillot nantais dans le centre-ville de Nantes. Est-ce qu'on se rend compte de la violence de ce genre de choses qui, normalement, si, imaginez-vous, il y avait les agriculteurs qui manifestaient à juste raison sur les routes, mais imaginez qu'un préfet dise tous les mecs, tu n'as pas le droit de. Si tu te revendiques le fait d'être agriculteur, tu n'as pas le droit de circuler dans telle grande ville pour ne pas la bloquer. Imaginez ce que ça ferait comme tintouin. Et c'est les supporters de football, ça passe crème. Donc, il faudra un jour peut-être se pencher sur ces arrêtés administratifs qui sont puants. Et c'est juste que les gens ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Et en France, quand on ne veut pas prendre de responsabilité, on interdit, ce qui est quand même fort dommageable. Et je vais quand même finir sur une petite chipo. C'était la Ligue qui avait fait tout un truc je ne sais pas si tu l'as vu pendant le match, tu as l'arrière Singo qui a fait un sombrero sur Barcola. Et en fait, c'est... Je l'ai perdu, mais bref, en fait, il fait look the shock bar, un truc comme ça. Et en fait, t'as les gens, ils ont repris ça et ils ont cru que Singo, finalement, le mec, il s'appelait shock bar. Et alors, shock bar, c'est être choqué pour les jeunes. Et donc, en fait, la Ligue a même été un petit peu plus loin. Ils ont montré Singo. Tu sais, qui se retourne et qui montre son maillot, donc floqué 99 avec marqué choc bar. Donc les mecs, ils ont remis des pièces dans la machine parce que du côté des Anglais, ils n'avaient pas du tout la ref. Et eux, ils pensaient que, enfin, côté anglo-saxon, ou du moins worldwide, hors France, ouais. Donc, vu qu'ils n'avaient pas du tout la ref choc bar, les mecs, ils sont partis en sucette dessus. Et d'ailleurs, sur le gros plan, ce qui a fait aussi le tour des réseaux, c'est le petit jeune, le petit ramasseur de balles, qui est justement choc-barre par ce sombrero de Singo sur Barcola, et qui ouvre des grands yeux avec la limite la mâchoire comme dans Texavri qui vient toucher le sol, quoi. Donc c'était énorme. Ah, d'ailleurs, on finit rapidement sur la Chipo et la Merguez de l'OGCRM, hein, qui est un peu le troisième membre, vu que Clément a eu des petits soucis de connexion. Donc, sa Chipo, c'est Mota qui fait un excellent boulot encore en Italie avec Bologne. D'ailleurs, Mota qui est sur les tablettes de la Juve pour remplacer Agnelli en fin de saison. Et ça pourrait être vraiment excellent. Je ne demande que ça. Il fait ses armes à la Juventus et dans quelques saisons, il vient entraîner le Paris Saint-Germain. C'est écrit. Hein, c'est écrit. C'est dans les livres, comme diraient les Kids United.
C'est les arbitres en Liga, mais au JCRM, on en avait déjà parlé la semaine dernière, c'était en France, on avait déjà fait le dossier. Et j'avais dit, ben c'est vrai qu'on en avait parlé, j'avais dit, en France, il n'y a pas qu'en France qui sont mauvais, c'est vraiment toute l'Europe. Ah oui. Et l'Espagnol a encore prévu.
Non, mais surtout, c'est ce qui est magnifique avec l'Espagne, c'est le Real qui ose parler du fait que c'est l'une des plus grandes escroqueries arbitrales de l'histoire intersidérale du monde, de la galaxie et encore plus loin. Et s'ils veulent, on peut leur faire une petite sélection des arnaques arbitrales orchestrées par le Real et par Barcelone. Donc voilà. Bon, mon Carlos, tu dois aller sauver la vie des gens, donc je vais te libérer. Et vu que je ne vais pas forcément continuer tout seul, sauf si vous voulez que je fasse une demi-heure sur Mbappé, mais non, on en a déjà assez parlé. Merci Carlos de ta présence et de tes lumières qui sont toujours éclatantes, éblouissantes. Je vais penser à mettre des lunettes la prochaine fois.
Vos boules de cristal, souvenez-vous-en.
On se retrouve, alors je ne sais pas si je suis motivé, pourquoi pas faire un petit débrief live de la qualif ou de justement, peut-être encore pire, de l'élimination de Paris demain soir, un petit rapide débrief d'une vingtaine de minutes à chaud. Voilà, donc à voir si vraiment, si ça peut le faire. Ou mercredi soir, ou pendant le match de Ligue des Champions de City, qui jouera son retour contre Leipzig. Donc voilà, à voir. Si on est motivé.
Ouais, mais on peut.
Donc voilà. Carlos, encore merci.
Bah, de rien, bonne soirée à vous. Finissez bien votre repas. Et on se dit à très vite.
À très vite.
Ciao.
Ciao.